Bienvenue à tous nos auditeurs pour les Échos de l'innovation, votre émission radio sur Graphite 94.9, dédiée à explorer les frontières passionnantes de la technologie et du progrès. Dans cet épisode, nous plongeons dans un univers où la stratégie rencontre la puissance du numérique, l'armée. À l'heure où les avancées technologiques transforment les champs de bataille et redéfinissent les notions de sécurité et de défense, nous vous invitons à vous découvrir comment les forces armées exploitent les outils numériques pour garantir la protection des nations, anticiper les menaces et assurer la sécurité des citoyens. Restez à l'écoute pour explorer les initiatives les plus innovantes, les défis technologiques et éthiques, ainsi que les perspectives d'avenir pour l'interaction entre l'armée et le numérique. Alors, on va se présenter rapidement. Bonjour à tous. Moi, je suis Estelle Fournier. Je suis une étudiante de 23 ans en 5e année d'école d'ingénieur à l'UTC et je suis spécialisée en ingénierie biomédicale. Ma passion pour les sciences et la technologie m'a toujours guidée vers des domaines où l'innovation peut avoir un impact significatif sur la santé et le bien-être des individus. Aujourd'hui, je suis particulièrement intéressée par le thème car je suis convaincue que dans le paysage des conflits contemporains, les guerres sont de plus en plus numériques. L'évolution rapide des technologies de l'information et de la communication a profondément transformé les tactiques et les stratégies militaires. Les cyberattaques, la surveillance électronique et la guerre de l'information sont devenus des éléments essentiels dans la géopolitique mondiale. Maintenant, je vais laisser la parole à Clara et Shiraz qui vont se présenter et partager leurs propres perspectives sur ce sujet. Restez à l'écoute car nous avons beaucoup à explorer ensemble.
Bonjour à tous, je m'appelle Clara Alvado, je suis actuellement en deuxième année à l'UTC. Je suis le cours de SI1 Sciences et Débats afin d'avoir une ouverture sur les enjeux sociaux dans le monde de l'ingénierie. Comme Estelle a pu le dire, la compréhension entre le numérique et l'armée est cruciale et c'est pour cela que je me suis impliquée davantage sur les différentes problématiques et les solutions mises en place afin d'allier l'innovation et l'armée. Et de plus, en SI1, nous étudions les sciences et débats et effectivement, je trouve qu'actuellement, on est beaucoup dans des débats sur... autour des guerres et dans un conflit géopolitique qui est quand même intense. Je laisse Shiraz se présenter.
Bonjour tout le monde, je m'appelle Selami Shiraz, j'ai 20 ans, je suis en deuxième année d'école d'ingénieur. Je suis passionnée par l'aéronautique et l'aérospatiale et on remarque qu'au cours de ces dernières années, ces deux domaines ont connu des avancées technologiques et numériques importantes, que ce soit dans le développement des avions de chasse ou dans la conquête spatiale. Alors à travers cette émission, je voudrais mettre le point sur armée et numérique en explorant quelques données avec nos spécialistes.
Alors on va commencer rapidement par un petit peu définir les termes de cette émission et je vais commencer tout suite avec l'armée. Alors en 2022, le ministère des armées comptait 266 052 femmes et hommes, dont les trois quarts étaient des militaires, avec 17% de femmes militaires. D'ailleurs, c'est un fait un petit peu intéressant parce que l'armée française se distingue parmi les plus féminisées au monde. L'armée, c'est une institution millénaire qui incarne la force et la sécurité d'une nation. Elle est chargée de la défense des intérêts et de la souveraineté de son pays, que ce soit en temps de paix, de tension ou de conflit. Les missions de l'armée sont multiples, elles comprennent la dissuasion, la surveillance des frontières, la protection des citoyens, l'aide humanitaire en cas de catastrophe, ainsi que la participation à des opérations extérieures. Pour accomplir ces tâches, l'armée déploie une variété de moyens, allant des troupes au sol, aux navires en mer, en passant par les avions dans les airs. Elle repose également sur des stratégies élaborées, une coordination rigoureuse et une expertise pointue dans les divers domaines. Aujourd'hui, l'armée intègre de plus en plus les technologies numériques dans ses opérations, exploitant les systèmes d'information, la surveillance par drone, les communications cryptées et bien d'autres outils pour renforcer son efficacité et sa réactivité sur le terrain. C'est d'ailleurs ce que nous verrons plus en détail dans la suite de l'émission.
Le constat s'impose depuis quelques années. Le numérique est devenu donc un nouvel espace stratégique et a envahi tous les autres domaines conventionnels. Sur les théâtres d'opération, garantir une supériorité opérationnelle et plus largement une autonomie stratégique suppose une maîtrise du numérique. Ce défi passe entre autres par la numérisation des champs de bataille et par l'exploitation des données qui en sont issues. La transformation porte également du coup sur l'efficience de nos métiers, la logistique, les ressources humaines, etc. Le ministère des Armées a lancé sa transformation numérique qui lui permet de proposer 100% des processus métiers numérisés, donc c'est des services dématérialisés, d'ici à 2022. En effet, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle ou le Big Data deviennent des facteurs clés dans le développement de l'armée. Face à un ennemi lui-même, de plus en plus numérique et agile, il s'agit de conserver l'avantage informationnel et d'anticiper les ruptures d'emploi qu'apporteront inévitablement les avancées technologiques. Donc on a les combats collaboratifs, les systèmes autonomes, l'analyse et la fusion de données, l'aide à la décision, etc. On a différentes lignes de force majeure, des données opérationnelles accessibles par tous les niveaux de commandement et soutenues par des architectures et des systèmes robustes et sécurisés, assurant l'acheminement des informations de bout en bout. Des programmes d'armement accélérés aussi qui tirent tous les bénéfices de la transformation numérique, avec des données logistiques qui seront partagées, des données aussi de gestion administrative qui vont permettre d'avoir un levier de performance. On peut aussi d'ailleurs parler de cyberdéfense. Donc la menace cyber est permanente et en évolution continue. Donc profitant des opportunités offertes par le cyberespace, le nombre et l'intensité des attaques menées dans ce milieu ne cessent de croître, visant le profit financier, la captation des données, la déstabilisation des institutions par la manipulation des opinions ou encore la paralysie des systèmes étatiques et privés.
On va regarder rapidement l'évolution du numérique dans l'armée et commencer directement avec Internet. L'histoire d'Internet est une chronique riche qui débute à la fin des années 50 lorsque des chercheurs esquissent les premiers concepts du réseau mondial. Cette saga prend véritablement son envol dans les années 60 avec la mise en place par le département de la défense américain d'ARPANET, le premier réseau connecté qui devait permettre aux chercheurs de partager des informations et de collaborer à distance. En 71, ARPANET voit l'envoi du premier mail, marquant ainsi une étape fondamentale dans l'histoire des communications numériques. Les années suivantes sont marquées par d'importants développements, notamment la définition du protocole TCP/IP, qui a posé les bases de l'architecture d'Internet telle que nous la connaissons aujourd'hui. Cependant, c'est en 90 que l'histoire d'Internet prend un tournant décisif avec la création du World Wide Web par Tim Berners-Lee, un chercheur britannique travaillant au CERN. Conçu à l'origine comme un moyen de partager des informations entre chercheurs, le web s'est rapidement répandu au-delà des frontières académiques pour devenir un outil essentiel de communication et d'échange d'informations à l'échelle mondiale. Au fil des ans, Internet a connu de nombreuses évolutions, passant du web 1.0, caractérisé par des pages statiques et un contenu unidirectionnel, au web 2.0, où les utilisateurs peuvent créer, partager et collaborer sur du contenu en ligne. Aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle ère avec le web 3.0, où la décentralisation et la blockchain permettent de révolutionner la façon dont nous interagissons avec Internet et les services en ligne. La décentralisation et la sécurisation des données offertes par la blockchain pourraient révolutionner la gestion des chaînes logistiques militaires et la traçabilité des équipements. L'intelligence artificielle pourrait améliorer la prise de décision et la planification des opérations, tandis que la réalité augmentée pourrait fournir des informations en temps réel sur le champ de bataille.
Et pour bien introduire notre thème, je voudrais mettre le point sur l'évolution du numérique dans l'armée française qui s'inscrit dans une tendance mondiale où les forces armées cherchent à intégrer les technologies numériques pour améliorer leur capacité opérationnelle et leur efficacité et leur réactivité. Alors voici une chronologie générale de cette évolution qui permet d'identifier que le numérique et l'armée sont bien reliés. En fait, entre les années 1990 et les années 2000, on a un début de l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans les forces armées françaises et on a aussi un développement du système de communication numérique pour les opérations militaires. Entre les années 2000 et 2010, on trouve une mise en place du programme de modernisation Scorpion, système de contact renforcé par la polyvalence et l'infovalorisation, visant à numériser les forces terrestres françaises. Ce programme inclut l'intégration des systèmes d'informatique et de communication avancés. On trouve aussi un développement des drones et du système de surveillance et de reconnaissance numérique. Et entre les années 2010 et 2020, on trouve un renforcement de la cybersécurité et de la lutte contre la cybermenace, compte tenu de l'importance croissante des cyberopérations. On a une intégration de l'intelligence artificielle, IA, dans divers domaines tels que la reconnaissance d'images, l'analyse de données et la prise de décision. On trouve aussi une utilisation accrue de simulateurs et de systèmes de formation virtuelle pour l'entraînement des troupes et un développement de systèmes d'armée et de défense basés sur des technologies numériques tels que les systèmes de missiles guidés et les systèmes de défense antiaérienne. Et des années 2020 jusqu'à aujourd'hui, on trouve une continuation de l'intégration de l'IA et des technologies numériques avancées dans tous les domaines des opérations militaires, un développement de capacités de guerre électronique et de cyberdéfense encore plus sophistiquées pour contrer les menaces émergentes. On trouve aussi une utilisation croissante de la connectivité et des réseaux sécurisés pour améliorer la coordination entre les différentes branches des forces armées et avec les alliés, et un investissement dans la recherche et le développement de technologies émergentes telles que la robotique militaire et les véhicules autonomes pour accroître l'efficacité et la sécurité des opérations sur le terrain. En fait, cette évolution montre comment les forces armées françaises continuent de s'adapter aux avancées technologiques pour maintenir leur capacité opérationnelle et leur compétitivité sur le plan international.
Alors maintenant, Clara et Chiraz, je vais un petit peu tester vos connaissances sur l'armée et le numérique avec un petit quiz d'une dizaine de questions. Est-ce que vous êtes prêtes ?
Oui.
Ok, c'est parti. On commence assez facilement, je pense. Première question, quel est le terme utilisé pour décrire l'utilisation de la technologie numérique dans ces opérations militaires ? Réponse A, guerre électronique. Réponse B, cyberguerre. Réponse C, guerre asymétrique. Ou réponse D, guerre psychologique ?
Réponse B.
Réponse B pour toi ?
Ouais.
Donc, guerre, cyberguerre et pour toi, guerre électronique ?
Ouais, je pense à une guerre électronique.
C'était réponse B. C'est cyberguerre, effectivement, qui fait référence aux conflits impliquant l'utilisation de technologies numériques et de l'Internet pour attaquer et défendre des infrastructures informatiques critiques, voler des informations sensibles ou perturber des services essentiels. Deuxième question. Comment s'appelle le système de navigation par satellite utilisé par les forces armées américaines ? Réponse A, Galileo. Réponse B, GLONASS. Réponse C, Baidu. Ou réponse D, GPS.
Je pense réponse A.
Galileo pour Chérèse et toi pour
moi,
toi
GPS.
Effectivement, c'est GPS. Okay. Bah dis donc, t'es forte, hein, Clara. C'est ça, GPS.
Je me suis entraînée avant.
Donc GPS, Global Positioning System, qui est un système de navigation par satellite développé et maintenu par le département de la défense des États-Unis. Effectivement. Question 3. Quel est le principal avantage de l'utilisation des drones dans les opérations militaires ? Réponse A, un coût moindre. Réponse B, l'absence de risque pour les pilotes humains. Réponse C, une plus grande autonomie de vol. Ou réponse D, une capacité à transporter des charges plus lourdes. Et là, c'est vraiment le principal avantage.
Réponse B, ouais, je pense.
Réponse B, l'absence de risque pour les pilotes humains.
Oui,
c'est ça.
Je pense réponse C.
Plus grande autonomie de vol.
Ouais.
Et bien c'était Clara, encore une fois, qui a raison. L'absence de risque pour les pilotes humains. C'est bien ça. Ensuite, question 4. Quel est le nom du programme de cyberdéfense de l'OTAN ? Un petit peu plus difficile. Réponse A, Cyber Shield. Réponse B, Digital Fortress. Réponse C, Locked Shields. Ou réponse D, Iron Dome.
Réponse C.
Réponse C, Locked Shields.
Ouais.
Je n'ai aucune. Non, je
c'était Locked Shields.
C'est vrai ?
Ouais. Mais c'est fou. T'as pas vu les questions ?
Non, je te jure, mais ils sont même pas.
Waouh, c'est fou. C'est ça, Locked Shields. Donc Locked Shields, c'est un exercice annuel de cyberdéfense organisé par le Centre d'excellence pour la cyberdéfense coopérative de l'OTAN. Et il est conçu pour entraîner et tester les compétences des équipes de cyberdéfense des pays membres. Question 5. Quelle est la principale fonction des systèmes C4-ISR dans l'armée ? Réponse A, combat, commandement, communication et contrôle. Réponse B, commandement, contrôle, communication et renseignement. Réponse C, contrôle, cyberdéfense, communication et sécurité. Ou réponse D, communication, commandement, combat et renseignement.
Je pense réponse A.
Réponse A, donc combat, commandement, communication et contrôle.
Ouais.
Moi, j'aurais dit réponse D.
Réponse D, communication, commandement, combat et renseignement.
Ouais.
C'était la réponse B.
Ok.
Commandement, contrôle, communication et renseignement. Donc le cycle, C4ISR, donc Command, Control, Communications, Computer, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, englobe les systèmes et technologies utilisés pour diriger les opérations militaires, collecter et analyser les renseignements et maintenir les communications sécurisées. Question 6. Quel est le nom de l'outil utilisé pour protéger les réseaux militaires contre les cyberattaques ? Réponse A, Firewall. Réponse B, Antivirus. Réponse C, IDS. Réponse D, VPN.
Bah, réponse B.
Réponse B, Antivirus ?
Ouais.
Et bah, c'était réponse C, IDS.
Ok.
Et IDS est un sigle qui signifie Intrusion Detection System, qui est un outil de sécurité réseau utilisé pour surveiller le trafic réseau à la recherche d'activités suspectes et potentiellement malveillantes et alerter justement les administrateurs réseau. Réponse 7. Quel pays est souvent cité comme pionnier dans le domaine de la cyberguerre pour ses attaques sophistiquées et bien orchestrées ? Réponse A, les États-Unis. Réponse B, la Russie. Réponse C, la Chine. Réponse D, Israël.
Réponse B, la Chine.
Réponse A, les États-Unis.
Alors, réponse B, c'était la Russie. C'était la Russie. Même si les États-Unis peuvent aussi être considérés comme un des pionniers dans le domaine de la cyberguerre. Ce qui revient régulièrement, c'est la Russie, qui est largement connue justement pour ses capacités avancées en cyberguerre, ayant mené plusieurs attaques sophistiquées contre des infrastructures critiques dans divers pays, notamment comme l'attaque contre le réseau électrique ukrainien en 2015. Question 8. Quel est le rôle des satellites dans les opérations militaires modernes ? Réponse A. Surveillance et reconnaissance. Réponse B. Communication sécurisée. Réponse C. Navigation et positionnement. Ou réponse D. Toutes les réponses ci-dessus.
Réponse D.
Réponse D.
Réponse A.
Réponse A, surveillance et reconnaissance.
Ouais.
C'était toutes les réponses ci-dessus. Donc en soi, t'as également raison. Voilà, les satellites, ils jouent un rôle crucial dans les opérations militaires modernes. Ils fournissent des capacités de surveillance et de reconnaissance, des communications sécurisées, des services de navigation et de positionnement, via notamment des systèmes comme le GPS.
Okay.
Question 9, un petit peu plus compliqué. Quel programme de l'armée américaine est connu pour le développement de technologies avancées comme les exosquelettes et les véhicules autonomes ? Réponse A, DARPA. Alors tout ce que je vais donner, c'est des sigles. Hein. Donc, réponse A, DARPA. Réponse B, NASA. Réponse C, NSA. Réponse D, MIT.
Réponse C.
NSA.
Oui.
Et toi, Shiraz ?
Pareil, je suis
pareil, NSA ? Eh ben non, c'était la réponse A, DARPA, ou DARPA, je ne sais pas comment on doit le prononcer. Mais en tout cas, c'est le Defense Advanced Research Projects Agency, qui est une agence du département de la défense des États-Unis, responsable du développement de technologies avancées pour les forces armées américaines. Elle est à l'origine de nombreuses innovations, y compris les exosquelettes, justement, les véhicules autonomes. Et enfin, dernière question, est-ce que vous êtes prête ?
Oui.
Oui.
Alors, quel est le principal objectif des exercices de cyberguerre organisés par les armées ? Réponse A, tester les nouvelles armes numériques. Réponse B, former les soldats aux techniques de cyberguerre. Réponse C, simuler des attaques pour évaluer la résilience des systèmes. Ou réponse D, développer des logiciels de cyberdéfense.
Réponse D.
Développer des logiciels de cyberdéfense ? Et pour
réponse
toi, Shiraz ?
C.
Réponse C, simuler des attaques pour évaluer la résilience des systèmes. Et bien c'était ça, réponse C, bravo. Les exercices de cyberguerre, justement, visent principalement à simuler des attaques afin de tester et d'évaluer la résilience des systèmes de défense cybernétique, d'identifier les vulnérabilités et de renforcer les capacités de réponse des équipes de cybersécurité.
Et donc avant de passer à la rubrique 2, on vous laisse sur la musique Big Jet Plane.
Take it for a ride on a PJ Flight.
voilà, sur Graphite 94.9 pour l'émission Les Échos de l'Innovation. Et notre émission aujourd'hui porte sur l'armée et le numérique. Dans cette deuxième rubrique dans laquelle on fera un zoom sur l'actualité, on se posera la question sur est-ce qu'il y a à sa place dans l'armée. Et personnellement, je pense qu'elle n'a pas vraiment sa place parce que je pense que les algorithmes d'IA peuvent être des sujets de biais et des erreurs, ce qui compromet la fiabilité des décisions autonomes prises sur les champs de bataille. Et ces erreurs pourraient avoir des conséquences graves, non seulement en termes de vie humaine, mais aussi en matière de stratégie militaire et de sécurité nationale. Mais je pense aussi qu'il y a des inquiétudes éthiques concernant la responsabilité morale des actions menées à l'aide de l'IA. Lorsque des systèmes autonomes équipés de ces technologies sont utilisées dans des situations de conflit, il peut être difficile d'attribuer la responsabilité en cas d'erreur ou de dommages collatéraux, ce qui soulève des questions sur la légitimité des actions militaires et sur la transparence des décisions prises.
Alors, pour ma part, c'est vrai que je suis d'accord qu'il y a une forme d'éthique qui n'est pas forcément respectée, mais je pense que l'intelligence artificielle, elle offre de nombreux avantages à l'armée, notamment en termes de gain de temps et d'efficacité opérationnelle. C'est vrai que grâce à l'IA, les forces armées peuvent automatiser certaines tâches répétitives, telles que la surveillance, la reconnaissance et l'analyse des données. Et donc, en fait, ça permet aussi de réduire le temps que vont prendre les militaires contrôler des drones, à s'exposer à des situations dangereuses. On a un temps qui est beaucoup plus réduit. Et donc, ce temps, il permet aussi d'utiliser encore mieux l'IA. Et donc, du coup, ça peut analyser rapidement des vastes quantités de données. Ça peut identifier donc aussi dans la rapidité des menaces potentielles et des schémas aussi de comportement qui permettent en fait aux commandants de prendre des décisions éclairées et beaucoup plus rapides.
En vrai, je suis pas très contre ton argument, sauf que je pense que là, à l'heure actuelle, tous les pays ne disposent pas des mêmes ressources numériques et technologiques. Et je pense qu'il faudra des différences entre des pays, notamment si on déclenche une nouvelle guerre, pas nous, mais si une nouvelle guerre se déclenche, il y aura une course à l'armement et à la prolifération des armes autonomes alimentées par l'IA. Et si une nation, comme j'ai dit, développe des systèmes d'armes autonomes avancés, cela pourrait déclencher une grande différence au niveau des guerres et cela ne pas être très équilibré. Et le pays qui dispose moins des avancées technologiques pourrait se trouver sur une...
Oui, c'est vrai, on peut voir ça, notamment pour Israël-Palestine,
ouais.
Où Israël a quand même la sixième puissance militaire du monde et aussi parce qu'elle est financée par les États-Unis qui sont, comme tu l'avais dit, Stella, un pilier dans la course à l'armement.
Ouais.
Et toi, t'en penses quoi du coup?
Moi, je voulais aussi rebondir sur l'argument de Chéraz qui disait que c'est vrai que l'intelligence artificielle pouvait être sujette à de nombreuses erreurs, poser des problèmes éthiques. Je pense qu'aujourd'hui, c'est déjà le cas avec les soldats humains. Il y a évidemment des erreurs et je pense qu'il y a même plus d'erreurs qui sont faites manuellement. Et d'ailleurs, ça a été prouvé que par des systèmes informatiques. Et je pense que de toute façon, on ne pourra pas échapper à l'utilisation de l'IA dans l'armée, puisque aujourd'hui, tout est en train de se révolutionner. C'est comme il y a 40 ans, il y avait beaucoup de contradicteurs à tout ce qui était système informatique. Aujourd'hui, on ne peut pas le nier, on est obligé de faire avec et l'utiliser comme outil. Donc moi, je pense que c'est comment ces outils vont être programmés. Il va falloir effectivement faire très attention. Mais moi, je pense qu'il y a quand même plus d'avantages, une meilleure précision, comme tu l'as souligné, un gain de temps aussi énorme. D'ailleurs, il y a une étude de l'Institut pour la recherche en informatique et en automatisation, qui estime que l'utilisation de l'IA dans le traitement des données radar peut réduire le temps de traitement de 40 à 80%, ce qui est vraiment énorme et ce qui va vraiment révolutionner les champs de bataille actuellement.
Après,
si jamais il y a une guerre,
oui,
en tout cas.
C'est vrai.
On n'espère pas.
Comme a dit Chéraz, c'est vrai que du coup, on a un trop grand décalage entre certains pays. Comme tu avais pu le citer, il y a eu la panne électrique. Là, ça prouve vraiment exactement que le numérique, quand on ne l'a pas comme outil dans le militaire aussi, on crée beaucoup trop de désaccords et on peut créer aussi comme ce
un fossé. Mais après, tu vois, ça a toujours été le cas, pas forcément que pour le numérique, mais même en termes d'une supériorité numérique d'une armée,
oui,
c'était
oui,
le
sûr.
Cas, tu vois, il y a des centaines d'années.
Mais le numérique va beaucoup plus toucher à la vie des gens. Je sais pas ce que t'en penses, Chéraz.
Après, comme vous avez dit, par exemple, toi, Clara, t'as mentionné l'avancée de l'armée israélienne, par exemple. Là, je tiens à préciser que c'est, en vrai, Israël, dans cette guerre, il est un leader dans l'utilisation des drones, par exemple. Il a développé son armée au niveau technologique et numérique. Et ces drones ont pour mission de surveillance et de reconnaissance de combat. Et pour les drones les plus reconnus dans cette armée, je peux citer le Héran et le Hermès, qui sont parmi les plus avancés du monde. Et l'armée israélienne a également fait des progrès significatifs dans l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, utilisant ces techniques pour analyser les quantités massives de données de renseignements et améliorer la précision des opérations militaires. Et en plus, en vrai, ces avancées technologiques et tout peuvent être bénéfiques, comme vous avez dit, gagne du temps et de précision, mais je pense qu'il y a un risque de déshumaniser les conflits, c'est-à-dire si on remplace par exemple trop la vie humaine par des machines et des robots, cela peut vraiment me faire penser à dévaloriser la vie humaine et le coût des soldats.
Oui, je suis d'accord, on voit du coup, ça veut dire que quand on va tuer des personnes, on va beaucoup moins se rendre compte de l'impact vu que c'est pas nous qui l'avons indirectement, qui avons commis cet acte. Donc c'est vrai qu'on déshumanise même les personnes qui travaillent dans l'armée, qui vont utiliser ces objets, enfin ces outils qui vont en fait à des fins quand même assez
Après, négatives. Après, moi je pense, là du coup j'ai l'impression que vous parlez beaucoup par exemple de robots qui peuvent potentiellement remplacer des soldats. Moi, je pense que l'intelligence artificielle, à l'avenir, ça va surtout être des cyberattaques et ça va être des choses qui vont être invisibles. Oui. Ça va plus être un champ de bataille comme on l'a connu aujourd'hui.
Oui, mais par exemple, les drones, etc.
Ouais.
Ça, c'est, les drones, c'est les satellites de reconnaissance.
Même les missiles qui peuvent être contrôlés, on est dans un numérique. C'est vrai que si on utilise l'IA, on va dire... pour l'analyse de données, pour pouvoir gagner du temps et faire beaucoup plus réfléchir et se poser sur des situations. Là, je peux comprendre l'utilisation. C'est vrai qu'après, je trouve que numériser toutes les armes,
ça peut être dangereux.
Oui, ça peut être dangereux. C'est sûr que... Mais là, j'avais regardé une étude qui disait que l'IA militaire, elle est utilisée donc intensivement par énormément de pays, en commençant par la Chine. Donc l'IA militaire est également largement utilisée pour la surveillance, la reconnaissance. Bon, ça, je pense que tout le monde est au courant.
La Chine a grave développé son armée. Elle a une des plus grandes armées du monde, avec un plus long nombre de soldats.
La Chine, elle a également aussi développé des robots militaires autonomes qui pourraient aussi être utilisés pour effectuer des missions dangereuses ou difficiles. On a aussi la Russie qui est utilisée, pareil, pour la surveillance, la reconnaissance, pour la prévention des attaques, et elle est aussi également utilisée pour le contrôle des drones. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de drones qui ont été envoyés sur l'Ukraine, et il y a eu aussi la gestion de l'approvisionnement et de la logistique. Et au final, pour l'armée française, c'est un peu plus différent. Enfin, l'armée française a adopté une approche plus prudente en ce qui concerne l'utilisation de l'IA. C'est une stratégie de recherche et de développement de l'IA qui vise à renforcer d'abord ses capacités en matière de surveillance et de reconnaissance, tout en veillant à respecter les principes éthiques et les normes de responsabilité. L'armée française, elle utilise également l'IA pour le contrôle, pareil, des drones et des robots et pour la gestion de l'approvisionnement, mais à un niveau moins important que les autres grandes armées du monde.
Et d'ailleurs, justement, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'IT Army of Ukraine. En fait, la Russie, comme tu l'as dit, Clara, elle a... commis de nombreuses attaques, cyberattaques envers l'Ukraine. Et donc, ils ont créé cette armée qui est une organisation de cyberdéfense volontaire créée à la fin du mois de février 2022 pour justement lutter contre les intrusions numériques dans l'information et l'espace cybernétique ukrainien après le début de l'invasion. Et aujourd'hui, il n'y a pas que des Ukrainiens, c'est vraiment des gens du monde entier, justement, grâce à cette plateforme qui peuvent aider... l'Ukraine, puisque aujourd'hui on sait que c'est ça qui peut les mettre en péril et faire avancer la guerre, en tout cas essayer d'arriver à une situation plus stable et espère à une paix future.
Oui, et comme tu as dit, en citant l'Ukraine, ce pays a grave investi dans la cybersécurité et la guerre électronique pour contrer les cyberattaques, principalement de la part de la Russie, comme il y a une guerre. Et ces investissements comprennent la mise en place des centres de cyberdéfense et de la formation intensive des cybercombattants, ce qui a permis de mieux protéger les infrastructures critiques et de déjouer les tentatives d'infiltration d'ennemis. Et l'amélioration des systèmes de communication sur le champ de bataille avec des dispositifs sécurisés et résilients, qui a également permis une meilleure coordination des opérations militaires en Ukraine.
Oui, c'est sûr. Et en plus, la cyberattaque, comme on a pu en parler, c'est en fait vraiment un nouveau cap qui vient d'être passé depuis 2021. En fait, l'OTAN l'a même qualifie maintenant l'OTAN de cyberattaque comme le cinquième domaine de guerre. Et donc, en fait, ça rejoint la terre, la mer, l'air et l'espace. Et on a donc du coup des nouveaux métiers aussi qui sont mis en place. Ça s'appelle les cyberattaquants. Et c'est considéré maintenant comme une arme puissante et une menace majeure. En fait, la riposte, elle se fait donc souvent grâce à la cybersécurité. Et donc, en tant que cyberattaque, le territoire de riposte ne s'arrête pas forcément au cyberespace. En fait, un État peut déployer militairement sur la terre ou dans la mer pour allier en fait ce combat. Donc du coup, en fait, c'est assez compliqué comme guerre. Oui. Parce que même ça emploie quand même des gens qui sont donc là pour, on va dire, même dénicher des fichiers qui peuvent être compromettants pour un pays ou même détourner des attaques, etc. Donc en fait, c'est indispensable de sécuriser les infrastructures militaires. Oui. Et c'est pour ça que là, il y a encore un décalage, parce qu'il faut quand même avoir de l'argent pour sécuriser.
Et je pense que ce qui change beaucoup et ce qui va peut-être aussi changer à l'avenir, c'est qu'avant, une guerre majoritairement venait d'un État qui l'a déclenchée, alors qu'aujourd'hui, finalement, quelqu'un un peu fort en informatique du fond de sa chambre peut compromettre.
C'est exactement quand on se pose la question, est-ce qu'il y a sa place? Parce que grâce au nouveau système informatique, il y a sûrement des failles,
bien sûr,
chose qu'on n'a pas conscience de ces failles. Et comme tu as dit, si quelqu'un est fort en informatique, il peut accéder à ces failles et accéder à des données d'État, et ça peut déclencher des guerres.
Tout à fait. Donc il faut être très vigilant et redoubler de vigilance, surtout pour sécuriser les données critiques. Et d'ailleurs, il y a des choses qui sont développées, notamment des stratégies de sécurisation. Et il y a une entreprise française d'ailleurs qui collabore avec l'armée. Je me souviens plus exactement du nom, mais en tout cas, elle collabore avec l'armée pour justement sécuriser un maximum les documents et qu'il y ait le moins de failles possible, même si évidemment, c'est jamais sûr à 100% et le zéro risque n'existe pas, mais en tout cas, que ce soit le plus sécurisé possible.
Du coup, on va passer à la rubrique 3, donc c'est l'interview de Jules Rivière sur l'armée, les technologies numériques présentes dans l'armée, etc.
Donc bonjour Jules.
Bonjour Clara, merci de me recevoir.
Donc je vais vous laisser vous présenter pour expliquer un peu d'où vous venez et comment vous avez cette connaissance sur l'armée et le numérique.
Alors du coup, moi je suis actuellement étudiant à l'UTC comme vous et j'ai fait beaucoup de recherches sur le sujet. J'ai participé à énormément de conventions et aussi de conférences qui m'ont permis aujourd'hui d'acquérir pas mal de connaissances sur le numérique dans l'armée, comment il est employé et quel impact ça a aujourd'hui pour une armée d'utiliser toutes ces nouvelles technologies.
Ok, parfait. Donc on va commencer par quelques petites questions. Donc comment l'armée intègre-t-elle les technologies numériques dans ses opérations et ses stratégies actuelles ?
Alors il faut savoir qu'aujourd'hui l'armée a un programme de développement qui est assez important sur les technologies numériques. Aujourd'hui on travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle, notamment dans l'utilisation des drones, de tous les engins qui sont pilotés à distance. Il faut savoir qu'aujourd'hui une intelligence artificielle va pouvoir apporter des solutions beaucoup plus rapidement qu'un homme. Les bases de données sont très larges, par contre il faut toujours avoir un contrôle derrière. Donc il faut savoir que quand on va du coup regarder par exemple si on peut attaquer une zone ou si on peut se déployer sur un théâtre d'opération, il peut être intéressant de demander à l'intelligence artificielle ce qu'elle en pense vis-à-vis des bases de données, et après l'homme va venir confirmer les actions qui sont conseillées par l'intelligence artificielle. Après, concernant les technologies numériques, aujourd'hui on travaille aussi beaucoup sur les capteurs. Il faut savoir que les capteurs permettent de faire de la reconnaissance sur des territoires qui sont parfois très hostiles. On peut penser à l'opération Barkhane en Afrique, où on était dans des grands déserts. Donc sur ces théâtres-là, c'est très intéressant d'avoir des caméras thermiques, des capteurs qui vont toujours aller chercher l'information plus loin, plus profond. Et du coup, on développe aussi beaucoup ces technologies-là. Et ensuite, on a aussi tout l'aspect communication qui va être très développé pour pouvoir du coup communiquer aussi dans toutes les zones du monde et très rapidement. On a donc un réseau satellitaire qui commence à être lancé par l'Europe. Là aujourd'hui, le monopole est pour les Américains qui ont tous leurs satellites en orbite. Mais nous, on commence à envoyer les notes pour pouvoir être aussi libre en cas de conflit et avoir une certaine du coup, liberté.
Ok, parfait. Et donc du coup, quels sont les principaux défis auxquels l'armée est confrontée dans l'adoption et dans l'utilisation des technologies numériques ?
Alors aujourd'hui, on rencontre quand même quelques limites, premièrement techniques. Il faut savoir que les appareils coûtent de plus en plus cher. Aujourd'hui, les drones volants les mieux équipés coûtent plusieurs milliards d'euros. Donc c'est assez conséquent pour les armées classiques, on va dire. Et également, on a aussi cette limite technologique où les scientifiques n'arrivent pas forcément à aller développer des caméras plus puissantes, à aller développer des caméras qui vont voir plus loin. Du coup, on a cette première limite. Ensuite, on commence aussi à rencontrer une limite vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Il faut savoir que c'est, comme je le disais, très intéressant et qu'aujourd'hui on travaille beaucoup avec. Mais pour autant, il faut quand même se méfier parce que on pourrait être confronté à des prises de décision de la part des appareils. Donc récemment, je crois, quand même dans les années 2000. Entre 2010 et 2020, on a connu un accident où un drone a pris la décision d'engager le feu sans commandement humain. Donc là, on commence à prendre la réalité en plein fouet et on se rend compte qu'il faut quand même se méfier de ces technologies. La France a mis énormément de temps à passer à l'utilisation des drones. Et aujourd'hui, du coup, ça nous a donné un certain retard vis-à-vis des autres pays, comme du coup les États-Unis, mais aussi l'Israël, qui sont très bien équipés. Et du coup, bah, aujourd'hui, on essaye d'avancer avec ces normes, mais il faut s'en méfier quand même.
Du coup, vous avez parlé de l'Israël, des États-Unis, etc. Donc, est-ce qu'il y a des conflits politiques actuels qui utilisent des outils numériques puissants, qui permettent aussi d'avoir un avantage conséquent ?
Alors oui, aujourd'hui, il y a plusieurs théâtres d'opération, notamment, je vais commencer par l'Ukraine, où bizarrement, on se rend compte qu'il y a une guerre de tranchées qui commence un petit peu à s'installer. Beaucoup de gens avaient imaginé une guerre un petit peu futuriste, pour un petit peu caricaturer avec des pistolets laser, etc. Mais au final, on se rend compte qu'on revient vite à la guerre où les hommes partent au front avec... on a quand même des blindés qui sont plus puissants, des armes à feu qui s'enrayent moins, etc. Mais pour autant, on est quand même sur un conflit qui reste à peu près similaire aux anciens. Néanmoins, on voit qu'aujourd'hui, au niveau des technologies, on a beaucoup de drones qui sont contrôlés à distance. On a vu beaucoup de drones amateurs lancer des grenades sur les troupes russes. Ça vient principalement de l'Ukraine, qui pilote ces petits drones. Donc aujourd'hui, ça confère un réel avantage parce que ces drones-là sont très silencieux et très furtifs. Et en fait, ce que ça va apporter dans un conflit, c'est une certaine peur de l'ennemi qui ne sait pas quand est-ce que l'incident peut arriver. L'ennemi ne sait pas quand est-ce que la grenade va tomber sur sa tête. Mais pour autant, il est en stress permanent. Ça peut être le jour, la nuit. Et donc là, c'est vrai que ça confère un réel avantage. Après, si on parle des conflits là actuellement, donc sur Gaza, on peut parler également de tous les missiles téléguidés. Donc là, on est dans de l'armement vraiment professionnel. C'est pas les petits drones qui sont pilotés à distance. C'est vraiment des missiles qui valent plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros, et qui vont pouvoir aller toucher des cibles très précisément, qui vont pouvoir éviter les barrages et les systèmes radars. Missiles air-sol, donc les missiles qui à la base visent les avions et les missiles qui les visent. Et du coup, aujourd'hui, cette technologie-là est très intéressante et ça fait beaucoup de dégâts. On a pu le voir lors des bombardements, c'est toujours très précis et ça fait toujours, comme je disais, beaucoup de destruction.
Et du coup, selon vous, est-ce que le numérique doit prendre une place conséquente dans l'armée, notamment par l'utilisation de l'IA ? Parce qu'on parle souvent aussi de l'éthique de son utilisation, parce qu'on collecte énormément de données sur les gens. Qu'en pensez-vous du coup de cette utilisation ?
Alors selon moi, c'est un avis personnel. Je dirais qu'il faut utiliser l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est un avantage qui est concret. On gagne énormément de temps. L'homme ne réfléchit plus aussi vite que la machine, voire plus vite. Maintenant, la machine nous a dépassés. Aujourd'hui, par exemple, sur un problème qui mettait 8 heures à traiter par les hommes, on peut obtenir une réponse en 2 heures par une intelligence artificielle. Donc ça veut dire qu'il nous reste derrière 6 heures pour contrôler le travail de l'intelligence artificielle, l'améliorer, le développer. Au final, on est vraiment gagnant. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, il faut quand même se méfier à ne pas tomber dans la confiance totale envers ces machines. Ça commence à ressembler à des cerveaux, honnêtement, au niveau de la constitution, des actes, des conséquences. L'intelligence artificielle va réfléchir à tout. Et du coup, il faudrait éviter qu'elle prenne le dessus. On a déjà vu des films un petit peu catastrophes où l'intelligence artificielle prend le dessus et contrôle la planète. Évidemment, c'est un petit peu exagéré, mais il faut quand même le prendre en compte. Et je pense que c'est intéressant d'utiliser au quotidien, même pour nous, utilisateurs lambda, cette intelligence artificielle qui nous fait gagner beaucoup de temps.
Et voilà, donc un petit retour sur l'interview que j'ai pu mener avec Jules Rivière. Donc on a parlé IA, on a parlé technologie et guerre numérique. Et donc c'est vrai qu'on a donc la dernière technologie qui s'investit dans le champ de bataille, c'est donc l'intelligence artificielle. On a d'ailleurs le Premier ministre de l'Ukraine qui explique que l'intelligence artificielle permet d'identifier les événements sur le champ de bataille et de réagir en conséquence. Ce qui signifie que nous devons nous attendre à une utilisation accrue des systèmes basés sur l'intelligence artificielle à l'avenir. Cependant, les drones dotés d'IA n'en sont qu'à leur début et ne peuvent pas guider un drone vers sa cible sur l'intégralité d'une trajectoire. Donc pour remédier à ce problème, on a donc le Premier ministre ukrainien qui explique que les données relatives au terrain de guerre sont analysées en permanence et que de nouvelles technologies sont testées directement sur le champ de bataille numérique. La Russie, quant à elle, va utiliser des drones assistés par l'IA et aussi utilisés par les dispositifs de visualisation pour identifier des cibles. On va donc passer à la rubrique 3, à part si vous voulez faire un retour dessus.
Oui, par exemple, tu as cité les drones. Pour les cas de l'Ukraine, ces drones sont souvent de fabrication domestique ou fournis par des alliés qui jouent un rôle crucial dans la reconnaissance et l'exécution des frappes précises, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des systèmes de renseignement traditionnels. À part ça, l'armée ukrainienne a considérablement modernisé sa capacité grâce à l'intégration des technologies avancées en réponse aux défis sécuritaires posés par les conflits récents qui sont Ukraine et Russie. Une des principales avancées est l'utilisation de ces drones, comme tu avais mentionné, Clara.
Oui, c'est vrai que c'est une attaque massive de drones, etc. Et c'est vrai que ça ajoute quand même un plus dans cette guerre parce qu'elle permet aussi un peu d'avoir tout le monde au même piédestal, notamment dans cette guerre où la Russie, comme tu l'avais dit d'ailleurs dans le quiz, a l'une des armées les plus importantes du monde. Donc c'est vrai que ça remet un peu, on va dire, tout en jeu. Ouais. Donc on va passer à la rubrique numéro 3. Et donc avant cela,
une petite pause musicale. The All You Need Is Love de The Beatles.
Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time.
Vous écoutez Graphite 94.9 et nous sommes de retour pour les échos de l'innovation avec une émission consacrée à l'armée et au numérique.
Bonjour, nous voilà dans la deuxième interview et la dernière de cette émission radio qui
qui sera sur le thème armée numérique. Dans cette interview, on se posera la question « Est-ce qu'il y a à sa place dans l'armée ?» Et pour répondre à cette question, nous accueillons un spécialiste dans ce domaine, qu'on est heureux de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Osama.
Alors bonjour, ouais, du coup, comme vous avez dit, je suis un spécialiste de l'IA et je m'appelle Oussama, je suis très ravi d'être ici.
Merci d'avoir accepté cette interview. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer comment les avancées numériques ont transformé les opérations militaires modernes ?
Alors oui, bien sûr. Les avancées numériques ont révolutionné les opérations militaires en offrant une coordination plus efficace entre les différentes unités et une communication instantanée sur le champ de bataille. D'ailleurs, selon une étude du Centre d'analyse du terrorisme, l'utilisation des technologies numériques a permis de réduire de 30% le temps nécessaire à la coordination des opérations militaires. De plus, les différents systèmes d'information et de communication modernes ont considérablement amélioré notre capacité à vraiment mener des frappes précises à distance en essayant vraiment de réduire les risques pour nos soldats sur le terrain et sur le champ de bataille.
Ah oui, donc on a une réduction de 30% sur le temps nécessaire, quand vous avez dit à la coordination des opérations militaires, ce qui est... moi je ne suis pas spécialiste, mais j'avoue que c'est une réduction à prendre en considération pour des opérations importantes.
Exactement, même si c'est 30%, c'est vraiment énorme. Et ça peut vraiment faire un impact, que ce soit pour nos soldats ou pour nos opérations sur le terrain.
Ok, d'accord. Et quels sont selon vous les principaux défis auxquels l'armée est confrontée dans l'adoption et l'utilisation des technologies numériques ?
Eh bien, je pourrais vous dire que l'un des principaux défis est surtout la sécurité, comme on le sait, car selon une étude de l'Institut Ponemon, les cyberattaques contre les réseaux militaires ont augmenté de presque 40% au cours des 5 dernières années. La protection de nos systèmes contre ces attaques est vraiment la priorité absolue de notre armée, de nos recherches. La formation des troupes à l'utilisation de ces technologies est cruciale et très très importante, car selon les données du département de la défense, seulement 60% des soldats sont actuellement formés à l'utilisation de ces nouvelles technologies numériques, ce qui souligne vraiment le besoin urgent d'une formation supplémentaire et d'essayer vraiment d'apprendre à nos soldats à pouvoir bien manipuler ces différentes technologies.
Et concernant les cyberattaques que vous avez déjà mentionnées, j'avoue que quand j'entends IA et armée, forcément je suis un peu inquiète. Est-ce qu'il y aura des cyberattaques ou bien est-ce qu'il y a une fuite de données, sachant que je sais pas, mais le système informatique en armée, il est très très bien sécurisé et c'est pas comme dans un autre système informatique parce que après tout c'est l'armée, c'est les données d'État et tout. Sur le coup, j'avoue que le système il est un peu sécurisé.
Comme je vous ai dit, vraiment la sécurité c'est notre priorité absolue. En tant qu'armée, qu'un corps de gouvernement, nous essayons vraiment de renforcer notre sécurité et rendre cette approche une approche très très importante pour nous et essayer de l'améliorer au fil des années.
J'ai une autre question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de la manière dont l'armée intègre les technologies numériques dans ses opérations et ses tactiques ?
Oui, bien sûr, absolument. Un exemple que je pourrais vous donner pourrait être l'utilisation de drones pour la surveillance et la reconnaissance qui est devenue très très courante. Selon les données du ministère des Armées, le nombre de drones utilisés par l'armée française a augmenté de presque 50% au cours des deux dernières années, ce qui est vraiment une augmentation considérable. C'est à peu près la moitié de nos drones sont des drones qu'on a acquis pendant ces deux dernières années. De plus, nos soldats sont vraiment équipés de dispositifs de communication avancés est très très sophistiqué, qui leur permet de rester connectés et de recevoir des informations critiques pendant leurs différentes missions. Ces technologies et ces améliorations ont considérablement augmenté notre capacité à recueillir des renseignements et à pouvoir vraiment réagir rapidement aux menaces que l'on peut avoir lors de nos différentes opérations.
Oui, concernant les drones, je rappelle que l'UTC a une conférence sur les drones qui se déroulera aujourd'hui sur les drones dans l'armée future, passée, présente, parce que pour l'armée, j'avoue que les drones peuvent constituer un élément majeur dans la détection de certaines données, notamment pendant la période des guerres ou la détection de certaines personnes qui sont en recherche et tout. Et ça peut simplifier la collecte des données partout dans le monde, en fait. Et je sais pas, mais je pense pour l'armée, c'est un élément de technologie qui est assez important.
Oui, du coup, quand vous avez dit, je ne savais pas que c'était la journée, oui. journée de présentation aujourd'hui à l'UTC. Mais du coup, ouais, ça peut être vraiment une initiative très, très encouragée par nous, parce que ça permet aux différents étudiants, aux différents futurs soldats, peut-être ingénieurs au gouvernement, de pouvoir se sensibiliser avec ces technologies et bien comprendre l'intérêt des drones. Oui. Dans notre armée.
Oui, vous avez raison. Et avant dernière question, en ce qui concerne les impacts éthiques et moraux des technologies numériques sur les opérations militaires, quelles sont vos réflexions à ce sujet ?
Alors, c'est vraiment une question très importante. Les technologies numériques soulèvent vraiment des préoccupations éthiques concernant la protection des civils, la vie privée et le respect des lois internationales. Par exemple, selon l'Organisation des Nations Unies, l'utilisation de drones armés dans des zones peuplées a entraîné la mort de plus de 500 civils au cours des 5 dernières années. Je ne sais pas si vous réalisez vraiment la grandeur de ces chiffres. Du coup, l'armée doit vraiment être très prudente dans l'utilisation de ces technologies pour éviter les conséquences éthiques et morales indésirables. Et c'est vraiment aussi une de nos priorités. Comme j'ai souligné dans une des questions précédentes, la sécurité est la chose la plus importante.
Oui,
du coup, il est vraiment essentiel que nous menions nos opérations de manière responsable et conforme aux principes éthiques fondamentaux. Et nous essayons vraiment de suivre ça.
D'accord. Alors, notre dernière question pour cette interview qui reviendra sur le sujet. Quel rôle joue l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique dans les opérations militaires actuelles et futures ?
Très très bonne question. Je pourrais dire que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique jouent vraiment des rôles de plus en plus importants dans les opérations militaires. Par exemple, pour vous citer un exemple, l'IA est utilisée pour analyser de très grandes quantités de données provenant de diverses sources telles que des images satellites, des communications interceptées, des rapports de terrain. Cela permet vraiment aux commandants de prendre des décisions plus éclairées et plus rapides. Pour parler chiffres, selon un rapport du Pentagone, l'utilisation de l'IA pour le traitement des données de renseignement a réduit le temps de réaction face aux menaces de 60% à peu près, ce qui est vraiment une diminution conséquente et qui pourra vraiment aider l'évolution de notre armée. De plus, l'apprentissage automatique est appliqué pour améliorer les systèmes de défense comme les systèmes de missiles antimissiles, en leur permettant de vraiment s'adapter et de réagir plus efficacement aux nouvelles menaces. Franchement, à l'avenir, nous prévoyons vraiment que l'IA pourra jouer un rôle crucial dans le développement de systèmes autonomes, tels que des drones, des véhicules sans pilote, qui pourront vraiment mener des missions de reconnaissance, de logistique et même de combat avec un minimum d'intervention humaine.
Merci beaucoup pour ces réponses éclairantes. Malheureusement, notre temps est écoulé. Encore une fois, merci d'avoir participé à cette interview, monsieur Ossema.
Alors, pour faire un petit retour sur l'interview que vous venez d'entendre, les avancées numériques ont transformé les opérations militaires modernes en améliorant considérablement la coordination et la communication sur le champ de bataille. Ces technologies numériques permettent une réduction significative du temps en coordination des opérations, comme vous avez entendu, minimisant les risques pour les soldats. Mais cependant, l'adoption de cette technologie n'est pas sans défi, notamment en matière de sécurité et le besoin urgent de formation des troupes. De plus, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique jouent des rôles cruciaux en permettant une analyse rapide des données et l'amélioration des systèmes de défense. Néanmoins, les applications éthiques et morales, comme les conséquences sur les civils et le respect des lois internationales, nécessitent une attention particulière pour garantir une utilisation responsable de ces technologies.
Effectivement, c'est vrai qu'on a eu aussi d'autres pays qui étaient un peu contre l'IA, notamment l'Autriche. Le représentant d'Autriche, il a expliqué que pour lui, il s'agit de l'un des moments charnières les plus importants pour l'humanité, selon lequel le rôle de l'humain dans l'utilisation de la force est une question de sécurité fondamentale, mais aussi une question légale et éthique. Et il pointe d'ailleurs du doigt les États-Unis, la Russie ou encore l'Israël, pour leur faire comprendre qu'ils ne soutiendraient pas ce traité l'utilisation de l'IA dans les guerres.
Oui, comme tu l'as dit, il y a aujourd'hui énormément de grandes puissances, que ce soit les États-Unis, la Chine, la Russie, qui se mettent à utiliser l'intelligence artificielle dans leurs armées. On va faire un petit zoom pour expliquer finalement le numérique et l'historique du numérique dans l'armée chinoise. Et on va continuer après avec Lara et Shiraz qui vont vous expliquer un petit peu plus le numérique dans le conflit israélo-palestinien. En ce qui concerne la Chine, il faut savoir que pour justement obtenir cet avantage informationnel dans le domaine militaire, la Chine a investi et investit toujours d'ailleurs massivement dans l'IA. Pour l'instant, cette technologie vient compléter et non remplacer l'approche déjà axée sur l'information en matière de combat. Malgré sa dangerosité potentielle, la Chine rencontre des obstacles dans la réalisation de ses objectifs militaires en matière d'IA. Et au cours des décennies, les écrits chinois ont souligné le rôle critique de l'information dans la guerre moderne. Pékin a développé au moins deux concepts opérationnels interdépendants visant à dominer l'environnement informationnel, la guerre de destruction systémique et la guerre de précision multidomaine. La guerre de destruction systémique cible les maillons faibles entre les capteurs et les plateformes. Si le système permet aux armées de communiquer, de traiter l'information du champ de bataille et d'exécuter des frappes, les stratèges chinois estiment que l'ennemi perdra la volonté et la capacité de résister. La guerre de précision multidomaine vise à intégrer l'IA et l'analyse des mégadonnées avec des frappes de précision pour identifier et cibler les faiblesses ennemies. Ces concepts sont difficiles à exécuter, ils nécessitent la génération, la transmission et le traitement d'une vaste quantité d'informations pour identifier les failles des systèmes et réseaux opérationnels ennemis. C'est là justement que l'intelligence artificielle va rentrer en jeu. Et Pékin croit que l'IA peut intégrer une myriade de sources de données en ensemble de données complets et exploitables que la technologie peut ensuite analyser. De plus, la Chine explore comment utiliser l'IA pour le guidage des missiles et la détection et l'identification de cibles, ainsi que pour la guerre électronique et la prise de décision. Il n'est pas non plus clair si l'armée chinoise possède la main-d'œuvre experte en technologie nécessaire pour créer des systèmes militaires IA de classe mondiale. Malgré ces défis, l'utilisation de la Chine dans l'IA militaire reste une préoccupation majeure pour la sécurité nationale des États-Unis et d'autres grandes puissances. Mais il est important d'évaluer correctement la menace et de développer des contre-mesures adéquates.
Oui, comme tu as dit, on voit que la Chine a bien amélioré son armée et tout, mais... Pour rebondir sur les avancées technologiques sur le conflit israélo-palestinien, on voit que l'armée israélienne est réputée pour son innovation technologique et son adoption rapide de nouvelles technologies. En effet, Israël a développé des systèmes de défense sophistiqués tels que le Dôme de fer, qui est une technologie de défense antimissile qui intercepte les roquettes à courte portée avec un taux de réussite élevé, protégeant ainsi les populations civiles des attaques régulières. Et en termes de cybersécurité, comme on avait mentionné en début d'émission, Israël a établi des unités d'élite telles que l'unité 8200 qui sont à la pointe de la cyberdéfense et de la guerre numérique, renforçant ainsi la protection des infrastructures critiques et la capacité de mener des opérations offensives en ligne. Et ces avancées technologiques font de l'armée israélienne l'une des plus avancées et efficaces du monde.
Effectivement, on va aussi avoir donc différents outils qui vont être utilisés par l'armée israélienne, notamment le drone Spark. Donc en fait, c'est un drone qui permet d'améliorer de manière significative la capacité des troupes opérationnelles et à agir de manière offensive et efficace en fonction des données qui seront reçues. On a aussi les munitions de rodage Spike Fairly. C'est des versions en fait de drones kamikazes qui pèsent que 3 kilos et qui sont équipées d'une ogive détachable. Et donc elle permet en fait de rester en l'air pendant 30 minutes et d'avoir une vue ensemble de la situation jusqu'à 1,5 km. Et donc, comme tu l'as dit, on va avoir aussi le dard de fer. Donc, c'est des munitions de mortier précis guidées par laser et par GPS, mises au point par la société de défense Elbit Systems. Et donc, elle a été utilisée d'ailleurs pour la première fois à Gaza en octobre 2023. Et donc, elle est capable de pénétrer le béton armé double avec un effet de souffle et de fragmentation. Donc, on a quand même un rôle hyper important de l'intelligence artificielle dans cette guerre, dans ce conflit israélo-palestinien. Après, est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'est la bonne voie d'utiliser tous ces outils autonomes, composés de systèmes très complexes dans cette guerre? Voilà, je ne sais pas si c'est la bonne solution. On va passer à une conclusion générale. Je te laisse faire, Estelle.
Oui, bien sûr. Alors, dans cet épisode de l'écho de l'innovation, Dans cet épisode des Échos de l'innovation sur l'armée et le numérique, nous avons exploré l'intégration croissante des technologies numériques dans les opérations militaires. Restez à l'écoute de Graphite 94.9.